Radio Prague, les informations.
Les militants contre l'abattage des arbres dans le massif de la Šumava poursuivent leur action. La compagnie Ryanair ouvrira une ligne Prague-Marseille. Et puis en football, Plzeň affronte le Rosenborg Trondheim ce soir en Norvège. Depuis une dizaine de jours, des militants écologistes cherchent à empêcher les ouvriers forestiers du parc national de la Šumava d'abattre des arbres atteints par le scolyte, un insecte xylophage ravageur. Mardi, ils étaient 46. Ce mercredi, leur nombre avait déjà dépassé la soixantaine. 7 militants se sont enchaînés à des arbres dans la matinée de mercredi pour bloquer les travaux forestiers et pour mieux résister à la police qui a déjà procédé à plusieurs interventions dans cette zone. Mardi, 20 personnes avaient été écrouées puis relâchées. L'action des militants écologistes a été critiquée par le vice-président du Sénat, Přemysl Sobotka. La compagnie irlandaise à bas coût, Ryanair, qui avait fermé sa plateforme marseillaise en janvier dernier après avoir été mise en examen pour travail dissimulé et non-respect du droit social français, revient en force dès la fin octobre et pour l'hiver 2012, proposant au total 14 destinations contre 10 l'an dernier. Et parmi ces destinations figure la capitale tchèque, Prague. Selon le quotidien La Provence, cette annonce est une riposte au projet de billets à prix économique lancé récemment par Air France sur Marseille. Au cas où un seul pilote de la société CSA, Czech Airlines, serait licencié, l'association tchèque de pilotes de transport, CZALPA, lancera une action pour retarder les vols. Et c'est déjà le cas, plusieurs pilotes ont reçu leur lettre de licenciement. Et l'action devrait être entamée dans les prochains jours. Nous vous tiendrons au courant sur les ondes de Radio Prague et sur le site internet www.radio.cz, évidemment. Un tableau monumental du peintre viennois Anton Peter a été découvert au grenier du château de Kroměříž, c'est en Moravie. La toile, dont les dimensions sont de 5 sur 8 mètres et demi, représente le martyr de Saint Venceslas, le saint patron de Bohême. Selon le quotidien Lidové Noviny, le tableau commandé au peintre viennois par l'archevêque Maximilian Sommerhaut Beck a été achevé en 1844. Il a été oublié pendant 160 ans dans le grenier du château archiépiscopal de Kroměříž. Mais le tableau, dont les dimensions égalent celles des toiles gigantesques de l'épopée slave d'Alphonse Mucha, sera restauré avant d'être présenté au public. On passe au sport avec du football, je vous le disais en titre. L'équipe championne en titre de République tchèque, le Viktoria Plzeň, est en Norvège pour affronter ce mercredi soir le Rosenborg Trondheim dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le match retour se jouera le 3 août prochain. Si le Viktoria l'emporte, ce seront ensuite les matchs de barrage, puis la phase finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse et la plus lucrative compétition européenne de clubs. En cas de défaite, l'équipe tchèque sera automatiquement qualifiée pour le quatrième tour préliminaire de la Ligue Europa. De la météo pour finir, avec jeudi, un temps en République tchèque qui reste partiellement nuageux, variable avec des pluies et des orages par endroits et des températures maximales qui s'échelonnent de 21 à 25 degrés. Le journal vous était présenté par Alexis Rosenzweig et dans un instant, c'est Václav Richter pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Les militants écologistes tchèques poursuivent leur action contre l'abattage des arbres dans le parc national du massif de Šumava. Le musée Montanelli de Prague a consacré une exposition à l'art brut. Tels sont les sujets de notre tour d'horizon de l'actualité tchèque. Dans le cadre de la rubrique Chapitre de l'histoire, David Allon vous amènera au cimetière d'Olšany à Prague. Ce sont donc les thèmes de cette émission préparée pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Dans le parc national de la Šumava, situé au sud-est de la Bohême, des militants écologistes de l'organisation Hnutí Duha, le mouvement arc-en-ciel, luttent depuis plusieurs semaines afin d'empêcher l'abattage d'arbres contaminés par un insecte xylophage ravageur, le scolyte. Mais cette tâche semble de plus en plus ardue, car les autorités responsables du parc sont désormais aidées par la police pour mettre un terme aux opérations des activistes. Pierre Maignan.
L'opération d'abattage des arbres infectés en forêt de Bohême, l'autre nom du massif de la Chumava, tourne à l'affrontement quotidien entre la police et les écologistes de Hunutni Dura, déterminés à empêcher les actions humaines d'intervenir dans l'écosystème de la forêt, comme l'explique Wojciech Kotecki, un membre de l'association précédemment cité.
Véritablement, le flétrissement des arbres sous l'action des scolytes fait partie de la vie naturelle des forêts de pins du massif de la Chumava depuis des millénaires. C'est pourquoi, si nous voulons disposer d'un parc national de la Chumava, qui ne soit pas uniquement destiné à une sorte de compétition forestière, si nous voulons être en mesure d'observer les fascinantes transformations que subissent les forêts naturelles et les animaux remarquables qui y vivent, si nous voulons rendre cette zone attractive pour les touristes et le public tchèque, eh bien, nous devrions laisser à la nature les mains libres.
La loi interdit aux bûcherons d'abattre un arbre en présence d'autrui. Les activistes tentent donc de constituer des chaînes humaines autour des arbres menacés. Cependant, leur action semble pour le moins compromise par l'intervention des forces policières, qui ont déjà arrêté une douzaine de personnes. Les déplacements sont ainsi surveillés dans toute la région du parc national, les autorités essayant d'empêcher les militants écologistes d'atteindre les zones d'abattage. L'ambiance est très tendue et parfois violente. Les avocats de l'association ont en effet annoncé qu'ils déposeraient une réclamation auprès des services d'inspection du ministère de l'Intérieur pour des violences policières. Un journaliste aurait également été pris à partie par les forces de l'ordre qui l'aurait identifié à tort à un activiste. De plus, les responsables de l'autorité administrative qui gère le parc ont fait appel à la justice. La Cour régionale de Bohême du Sud et le Bureau tchèque d'inspection de l'environnement ont ainsi tous deux confirmé le caractère légal de cette lutte contre les scolytes, ce qui permettait à Jiří Manek, l'adjoint de la direction de la gestion du parc national de la Šumava, de déclarer.
Lorsque les arbres infectés par le scolyte sont abattus en accord et selon les principes prescrits par l'organe de défense de la nature, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce que nous faisons et nous nous en tenons aux lois.
Selon lui, chaque arbre infecté, coupé, permettrait de sauver 8 arbres sains. Un avis que ne partage pas vraiment Antonín Schubert, le maire du bourg de Modrava, près duquel ont lieu ces coupes d'arbres, et qui soutient le combat de l'association Hnutní Dura.
L'administration qui gère le parc agit en accord avec ses principes tels qu'ils ont été présentés par son nouveau directeur. Hnutní Dura et ses sympathisants s'efforcent ici de protéger un animal unique de l'écosystème du milieu forestier qui se trouve être en l'occurrence le scolyte. À cette fin, ils mettent en place des actions qui poussent les médias à s'intéresser à leurs objectifs et à les présenter.
À ce jour, 300 arbres contaminés ont d'ores et déjà été abattus et il semble, avec l'action des policiers et le soutien de la justice, que l'action des militants écologistes sera difficile à mener à son terme. L'administration du parc national de la Chumava pourrait néanmoins être confrontée à un autre problème, puisque l'Autriche a averti qu'elle pourrait demander une compensation de l'ordre d'1 million d'euros pour les éventuels dommages causés sur son territoire.
Anatomia Metamorphosis, c'est le nom d'une exposition consacrée à l'art brut, ouverte au public jusqu'au 30 septembre au musée Montanelli à Prague. L'art brut, rappelons-le, c'est un terme qui vient de Jean Dubuffet pour désigner le créateur à la marge, hors normes, souvent sans formation académique. Une des principales propagatrices de l'art brut en République tchèque, Terezie Zemánková, a parlé du travail des 3 artistes exposés au musée Montanelli au micro d'Anna Kubišta.
Le premier il s'appelle František Dymáček, c'est l'auteur qui était inconnu jusqu'à maintenant. C'est une nouvelle découverte du nord de Moravie, de Ostrava. Il a travaillé la plupart de sa vie dans un centre de recherche informatique, donc il était au début de l'évolution des ordinateurs. Il a commencé à dessiner comme tout le monde pendant un téléphonant. Mais après, quand il est parti pour en retraite, il a commencé à faire les on peut dire les structures organiques qui sont plus compactes. Et ce qui est intéressant, on peut trouver toujours plusieurs couches dans chaque dessin, parce qu'à première vue, on a l'impression que c'est seulement une composition ornementale, mais après, on peut voir qu'il y a beaucoup de visages et figures cachées dedans.
Oui, alors c'est vrai que c'est une espèce de jungle quasiment de formes, de figures, de visages, de parties de corps aussi, d'une certaine façon, qu'on retrouve chez František Demáček. C'est parfois très oriental, d'une certaine façon, finalement, quand on regarde, on dirait des tapisseries, finalement.
Oui, il y a, on peut trouver aussi une espèce de masque oriental ou le masque des dieux aztèques, par exemple. Mais je crois que tout ça, c'était plutôt inconnu, que c'était ce n'était pas les vraies citations, que c'était seulement son imagination qui nous rappelle maintenant les formes de la culture qu'on connaît. Mais vous avez mentionné les parties de corps. C'est exactement la chose qui lie František Demáček avec Luboš Plný.
Qui est le deuxième auteur que vous exposez ici.
Et par une certaine façon aussi avec Anna Zemánková. Et Luboš Plný, c'est un artiste contemporain. Presque 50 ans maintenant. Ce qui est caractéristique pour Luboš Plný, c'est qu'il fait une espèce de coupe de corps humain.
On pourrait caractériser les dessins de Luboš Plný en fait comme des coupes, comme si on découpait le corps humain en rondelles de saucisson, quoi, d'une certaine façon.
Voilà, exactement. Il note ou il dessine chaque couche de corps, ça veut dire la peau, les muscles, les os, le système vasculaire. C'est jamais simplement décoratif, il y a toujours un système qui est le plus important dans son œuvre.
Quel est le lien finalement entre František Demáček, Luboš Plný et puis votre grand-mère Anna Zemánková?
L'idée de cette conception, c'était de montrer le sens caché de l'œuvre d'Anna Zemánková qui se réveille en communication, en dialogue avec Luboš Plný et František Demáček, parce que la plupart des gens regardent sur les œuvres d'Anna Zemánková comme sur les fleurs surnaturelles ou un herbier de l'autre planète, ou quelque chose comme ça. Mais si on les regarde en confrontation avec les œuvres de Plný, on peut voir qu'il s'agit très souvent des formes, des corps humains comme un utérus avec des fœtus ou un vagin qui est en train de donner la naissance ou d'accoucher ou quelque chose comme ça. C'est seulement une possibilité comme on peut regarder son œuvre. Mais bien sûr, c'est pas, je dis pas que c'était comme ça, mais c'est vrai qu'elle était très, très obsédée par sa maternité. Et aussi par ses manifestations physiologiques. Et elle a parlé beaucoup de ses accouchements, d'enfance, de ses fils et de sa fille. Je crois que dans le moment de sa ménopause, c'était exactement quand elle a commencé à dessiner, je crois que la création lui a remplacé sa maternité physiologique, parce que ce n'était qu'au début de sa créativité, quand elle a fait cette forme, disons, physiologique. Et je crois qu'en confrontation avec l'œuvre de Luboš Plný et František Demáček, cette espèce physiologique, ou ce côté physiologique, se réveille, se découvre.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Cap aujourd'hui sur le cimetière d'Olchany dans le quartier de Žižkov. Avec ses 2 millions de pierres tombales, c'est le plus grand cimetière de Prague et une véritable ville dans la ville. Moins fréquenté que son conjoint de Vyšehrad, il n'en abrite pas moins des noms célèbres, Veriche Voskovec, Josef Lada ou encore Jan Palach. Pourtant, c'est au niveau de ces anonymes que le cimetière se révèle comme un document historique.
Chapitre de l'histoire.
Mmh.
Nous sommes dans le centre commercial de Flora. Autour des bureaux, l'agitation du quotidien, le bruit des gens et des trams. Pourtant, on serait au cœur même d'un quartier actif, un monde de silence. Le cimetière d'Olchani. Au Moyen-Âge s'opère une sécularisation de la mort. Les morts ne sont plus enterrés au sein de l'église, mais dans un espace délimité. On rejette, pour ainsi dire, les morts à la périphérie du centre social. Aujourd'hui et ici à Olchani, c'est la même chose. Illustration peut-être extrême du processus de laïcisation de la mort. Sauf que les morts ne sont plus rejetés à la périphérie. Ils sont au centre de l'agitation quotidienne. Des croix imposantes dépassent des murailles du cimetière. Elles rappellent aux vivants la vanité de toute chose. Un vrai patrimoine avec des tombes néo-gothiques, des caveaux travaillés. Certaines, bien entretenues, représentent de véritables petits chefs-d'œuvre. D'autres sont complètement laissées à l'abandon. Et pourtant, même celle-ci donne son charme bien spécifique au lieu. Un charme typiquement pragois qu'illustre par exemple le parc de Cibulka à Prague, un parc à l'anglaise de la fin du XIXe, habité aujourd'hui par des statues noircies à moitié cachées derrière la végétation qui a pris le dessus. Et pourtant, ici, au cimetière d'Olchani, nous restons parfois étonnés devant l'état de ce qui s'apparentait à l'origine à de petits monuments. David Allon.
Alors certaines tombes sont, certains caveaux même, qui finalement sont assez impressionnants, comme je me trouve devant celle de la famille Goldfusova, sont carrément ouverts. Vous pouvez entendre ici l'écho, parce qu'en fait je suis bien dans le caveau. La tombe a dû être déplacée, mais tout le reste a été laissé comme tel, les pierres tombales, la grille en fer forgé, absolument ouverte, dans un piteux état. C'est aussi ça, le cimetière d'Olchani. Alors, au rang des caveaux particulièrement impressionnants, il y a même ce qui paraît être finalement une muraille de maison de campagne. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment recréer totalement la maison du mort, sauf que l'endroit n'est pas du tout entretenu. D'autant plus impressionnant pour cette raison, la famille n'a peut-être plus les moyens d'entretenir la tombe. C'est vraiment un caveau, on peut dire une maison de notables. C'est la famille Veseli. Alors pareil, la grille en fer forgé, c'est ouvert.
Nous avons rencontré un employé du cimetière d'Olchani qui a souhaité rester anonyme. Il évoque l'état délabré de certains caveaux.
C'est l'administration municipale qui gère les cimetières de Prague, mais il n'y a apparemment pas assez d'argent pour entretenir l'ensemble du patrimoine. Certaines parties du cimetière d'Olchani sont dans un triste état et ne devraient pas être restaurées de sitôt. C'est vrai que le côté délaissé peut apporter un charme historique supplémentaire, une sorte d'exposition d'art funéraire en direct, à l'image de certains caveaux dont certaines pierres tombales ont pu être dérobées.
Et pourtant, le cimetière incarne paradoxalement une image vivante de la société d'autrefois, car il peut se lire comme un document historique à différents niveaux. Les tombes révèlent ainsi le caractère multiethnique spécifique à la Prague d'avant 1939, avec ses trois communautés tchèques, juives et allemandes qui forgèrent l'identité du pays. Une culture dont la nature particulière a doublement disparu, avec les Juifs pendant la Shoah et avec les Allemands suite à leur expulsion en 1948. Ici une croix de fer pour cette tombe de la fin du XIXe siècle. Le nom est tchèque, Kinslova. Comme à Vienne, on trouvait à Prague de nombreux patronymes tchéquisants dans la communauté allemande. Et puis bien sûr, quelques patronymes allemands sur ces tombes du XIXe siècle, von Wachtentrau, docteur, etc. Parmi les différents écriteaux indiquant les allées, l'une se démarque. Elle est rouillée et a l'air particulièrement ancienne. L'inscription est marquée à la fois en tchèque et en allemand. Hřbitov Friedhof.
Tak ten hřbitov byl založený 1680 vlastně, jo, takže
Les débuts de ce cimetière remontent à 1680. À cette époque, et pour un certain temps encore, on utilisait l'allemand comme le tchèque. Cela a duré depuis l'époque austro-hongroise jusqu'à la Première République. C'est pourquoi les panneaux indicatifs les plus anciens du cimetière sont bilingues. Pour le terme de section, on trouvera ainsi Odjeleni et Abteilung. Je pense que certains de ces panneaux remontent à l'époque des Habsbourg. De nombreux caveaux ont été pillés, certains n'appartiennent tout simplement plus à personne. Il y a par exemple des tombes de familles allemandes qui ont été expulsées de Tchécoslovaquie après la guerre. Personne ne s'en occupe et certaines sont dans un état de désolation.
Le cimetière regorge de noms qui, sans être célèbres, n'en sont pas pour autant anonymes. Certains ont forgé à leur manière l'histoire intellectuelle tchèque. Un panneau nous rappelle l'existence de František Špatný, auteur d'un dictionnaire, ou encore de Štěpán Bačkora, auteur de livres de pédagogie. On sait la place qu'occupe cette discipline en Bohême depuis Komenský, Comenius. Sur la plupart des tombes sont inscrits les anciens métiers de leurs occupants. Ici un écrivain, un pharmacien, là un directeur de banque. L'ensemble illustre le niveau élevé d'instruction dans la Bohême et la Tchécoslovaquie des 19e à 20e siècles. Ici, éditeur, journaliste, docteur occupent une place de choix. De nombreux artistes également. Ainsi, Marie Jofie Sitová, décédée en 1907, sopraniste du Théâtre National et fille du violoniste Antonín Sitová. Le cimetière permet aussi de reconstituer le niveau socio-culturel et économique de la Bohême d'avant la Tchécoslovaquie. Il y a des personnages dont on devine qu'ils eurent un rôle administratif important sous la monarchie habsbourgeoise. Ainsi est cette famille Chebora, sur la tombe de laquelle est inscrite « rang de l'empereur ». Des tombes très simples, par exemple une simple croix posée à même la terre côtoie de riches caveaux. Cela aussi illustre une autre caractéristique tchèque, la mixité sociale, si importante dans la vie quotidienne depuis le XIXe siècle, se retrouverait-elle également chez les morts? Pour finir, notre employé du cimetière nous révèle une étrange anecdote sur Olšany.
Il y a par exemple la tombe de la famille Hrdlička. L'un des membres était étudiant à l'Académie de diplomatie de Vienne. Sa mère avait prétendu qu'un ange était venu à elle, lui annonçant que son fils allait disparaître. Quelques jours plus tard, parvenait une nouvelle de Vienne que son fils était décédé. Elle avait donc eu une vision. Elle a fait reconstruire pour sa tombe un groupe de statues, qui est aujourd'hui le plus grand du cimetière.
Grandes et petites histoires se rejoignent au cimetière d'Olšany, ouvert en été jusqu'à 19h. C'était donc la rubrique chapitre de l'histoire préparée pour vous par David Allon et c'est la fin de la première partie de notre émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.